Nico, c'est moi.
Content d'entendre ta voix, Rémi. Comment se passe la mission ?
Mal, Nico. J'ai encore rien trouvé comme anecdote, et j'ai pas eu le temps d'écouter les BO. J'ai dû choisir des morceaux au hasard.
Ça sent mauvais, tout ça.
Et je voulais refaire les jeux, mais l'épisode 4 contient 8 heures de cinématique. 8 heures !
Je pense qu'il vaut mieux annuler la mission à ce stade. Ça devient trop dangereux.
Non, j'ai encore le temps. Il suffit d'envoyer le générique Damn ! Qu'est-ce qu'on est drôle! Qu'est-ce qu'on
oh
est
là
drôle!
Oh là là, on se marre! je me tiens les côtes!
Moi aussi, là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais garder un peu de prestance parce que c'est une émission professionnelle. Bah, on le voit d'ailleurs, là, le budget grimpe en flèche. Donc, bienvenue! Bonjour Nico, bienvenue dans ce nouvel épisode de 50% où on va parler de la saga de ta vie. N'est-ce
oh
pas?
Oui, oh là là, j'ai tellement, tellement de choses à dire, mais tellement.
Tellement, oui, ça va être l'épisode le plus long de l'histoire de 50%.
Ah, mais j'ai prévu, tu disais, il y a 8 heures de cinématique dans MGS 4, j'ai 8 heures de monologue à faire là, hein, minimum. Hein.
Ah. All right, bon, on va se lancer alors. parce que oui, la saga Metal Gear, la fameuse saga Metal Gear, c'est une saga qui est très, très dense. Très, très dense. Une saga qui nous parle du danger de l'armement nucléaire, mais surtout de la manipulation, du rapport pervers que les gouvernements et les compagnies d'armement entretiennent entre la destruction, le profit. Donc, une saga très, très sérieuse, mais aussi une saga très schizophrène, finalement, parce que elle mélange constamment la gravité du propos et l'humour potache, le drame, l'absurde, ou alors la classe et le kitsch absolu. Et c'est assez rare, les séries qui arrivent à marier des scénarios extrêmement réalistes et sérieux, et profonds même, avec des idées mais complètement débiles ou assumément over the top. Donc ça va être assez intéressant. Mais bon, c'est surtout l'œuvre d'une personne. Une personne qui a réussi à rendre son nom aussi symbolique qu'une marque. Donc on va parler dans cet épisode que des volets de la saga réalisée par Hideo Kojima. Bon, déjà, ça nous permet de faire un podcast de moins de 10 heures, donc 8 heures comme on l'a annoncé, seulement.
Seulement.
Surtout, ça flattera le susnommé qui aime placarder son nom un petit peu partout. Donc, il faut dire qu'avant d'être un véritable graffeur de générique, hein, estampillant son nom sous chaque discipline possible, Monsieur Kojima, c'est un amoureux inconditionnel du cinéma. Et c'est cet amour pour le 7e art qui l'a poussé à créer une des franchises les plus connues, on va le dire, et les plus impactantes du jeu vidéo, finalement. Et pour comprendre comment cette série elle a vu le jour, on va se pencher un peu sur l'enfance de Hideo Kojima brièvement. On va juste dire qu'il est né à Tokyo, c'est le 3e enfant de sa famille, et toute sa famille déménage assez tôt à Osaka, ce qui fait qu'il se retrouve dans une ville qu'il connaît pas et il est un peu solitaire, donc il passe son temps à regarder la télé ou à fabriquer des figurines dans sa chambre. Et à cette époque-là, ses parents décident d'instaurer une tradition familiale. Vu que ses parents sont des fans de cinéma de genre, chaque soir, un film doit être regardé en famille, tous les soirs. Et les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller se coucher tant que le film, il n'est pas fini.
Donc... la torture, quoi. Je m'en fous, t'es fatigué, tu prends du café, on finit le film.
Tu regardes le film, ce qui est le contraire de toutes les familles dans le monde. Hein, donc
c'est... Exactement.
Donc, le petit Hideo, il est exposé très jeune à des films américains, européens ou même horrifiques. Et à partir de ses 10 ans, ses parents l'encouragent à aller voir des films au cinéma, dans les salles de cinéma, à une seule condition. Il faut que quand il rentre, il ait avec lui la brochure du film qu'il avait vu, et il faut qu'il leur fasse un résumé et une critique du film. Aujourd'hui encore, Kojima, il dit que la première chose qu'il fait quand il arrive dans un hôtel, quand il est en voyage, c'est allumer la télé et regarder les films qui sont disponibles sur le programme.
Tu sais que, très très courte anecdote, mais je suis tombé là-dessus en faisant mes recherches justement sur le gars, il a conservé cette tradition de mater au moins un film par jour, et en fait, il le faisait, je sais pas s'il le fait encore, mais au moins chez Konami, il le faisait au travail. C'est-à-dire que au travail, il prenait une pause, quel que soit l'agenda de sa journée et machin, il se trouvait toujours 1h30 pour regarder un film au bureau par jour. Il racontait
mortel.
C'est effectivement une tradition qui lui vient de quand il était gamin, quoi.
Moi, si je fais ça à mon travail, je serai sans emploi très tôt. Donc, faut savoir que la vie de Kojima, elle va changer quand il joue pour la première fois à Mario sur NES. Parce qu'il explique que lui, il pensait que les jeux et les films, à l'époque, c'était deux entités séparées. Et lui, il voulait être scénariste, réalisateur. Hein, donc, il n'avait pas remarqué que les jeux vidéo, ça pouvait également être un moyen d'expression artistique. Et Mario, ça va tout changer. Donc, il lâche ses études en économie qu'il était en train de faire. Et il se tourne vers le game design, qui avait vraiment mauvaise presse à l'époque au Japon, dans ces années-là, parce qu'on considérait que c'était les artistes ratés qui allaient faire du jeu vidéo et du game design. Et il entre chez Konami en 86. Et il se voit assez déçu parce qu'il est affecté à l'équipe MSX, qui était une machine purement japonaise, et non pas à l'équipe qui travaillait sur la NES, donc il est un petit peu déçu. Mais il passe assez vite assistant réalisateur sur le jeu Penguin Adventure, jeu extraordinaire qui est la suite de Antarctic Adventure, qui était un jeu encore plus extraordinaire. Mais Kojima, il a vraiment besoin de prouver son potentiel à l'équipe et de montrer qu'il en veut. Donc, il s'investit à 200% dans ce jeu. Il propose plein d'idées super originales pour l'époque. Et il fait en sorte que cet épisode, finalement, il se démarque beaucoup de son prédécesseur. Il attire l'attention sur lui et il est assigné en tant que réalisateur, cette fois, à un jeu de combat militaire. Le MSX galérait à afficher tous les sprites des ennemis et des balles en même temps. Alors Kojima, il se dit « Je vais proposer un pitch où le combat, c'est pas le but pour ce jeu. » Et il va s'inspirer du film de 1963, « La Grande Évasion ». Grand, grand film. Ce pitch, il s'appelle « Metal Gear Intruder ». Et il présente un jeu d'infiltration pure, ce qui est vraiment original pour l'époque. Le but, c'est que là, le combat, c'est pas une option viable dans son pitch. Et donc, Konami, ils aiment pas l'idée. Et ils rejettent le pitch automatiquement parce qu'eux, ils veulent de l'action, ils veulent de la baston, donc ça leur plaît pas.
Ils veulent de la bagarre, bah oui.
Bah ouais. Donc là, Kojima, il retourne écrire un nouveau pitch où là, il a l'idée de la sonnette d'alarme. En fait, quand on infiltre le camp adverse, on peut déclencher une alarme si on se fait voir. Et là, ça devient un jeu d'action où on se fait tirer dessus, etc. Et c'est ce qui finit par convaincre Konami de lancer le projet. Donc, ça crée le premier jeu d'action-infiltration qui s'appelle Metal Gear, qui est sorti en 87 sur MSX. Le joueur, il contrôle Solid Snake, qui est un agent de l'unité des forces spéciales Foxhound, qui part en mission d'infiltration dans la base fortifiée Outer Heaven pour détruire le Metal Gear, qui est un tank bipède capable de lancer des missiles nucléaires depuis n'importe où dans le monde. On pourra au passage sauver plusieurs agents qui ont été capturés par l'ennemi. Et pour illustrer l'ambiance si particulière de ce premier Metal Gear, on va s'écouter le thème de Tara, qui nous accompagne pendant la quasi-totalité du jeu. En fait, c'est un thème qui tourne en boucle pendant tout le jeu. Il faut savoir que le premier Metal Gear, il a genre 4 ou 5 musiques en tout. Hein, vraiment, il n'y a pas beaucoup de musique. Mais écoute, on va s'écouter ce thème-là pour se mettre vraiment dans l'ambiance infiltration.
Allez. Thank you.
voilà, un thème très bien écrit, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de variations, ce qui fait qu'on se lasse jamais de l'entendre, finalement.
Mais c'est ça, moi j'y suis là, ça y est, je suis de retour. C'est Outer Heaven, je me cache derrière des camions, derrière des caisses. Oh là là, je fume des cigarettes pour révéler des lasers. J'y suis là.
Oh là là, il va être long cet épisode. Donc, n'empêche, moi ce que j'adore dans ce thème, c'est qu'il y a ce côté infiltration, comme tu as dit, c'est, ça marche direct, on sent vraiment l'ambiance infiltration. Et il y a un petit côté cartoon et second degré qui, je trouve, qui est annonciateur du côté décalé de la série. Parce que si tu écoutes la ligne de basse toute seule, je l'ai préparée de côté, donc je vais te la faire écouter. Il y a ce petit côté cartoon. Moi, j'imagine bien un personnage qui avance sur la pointe des pieds dans le fond du cadre, tu sais, pendant que deux gardes parlent entre eux. Il y a ce petit côté un peu décalé qui est annonciateur pour moi de ce que va être la série. Par contre, je me suis toujours demandé, c'était qui Tara ? C'était quoi Tara qui donne ce nom au titre, thème de Tara ? Eh bien, en fait, j'ai fait mes recherches et ça vient de Hideo Kojima qui, quand il voulait parler de cette musique à l'équipe, il disait, tu sais, la musique qui fait Tara. Et Tala en japonais, ça nous donne Tara. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est reformé, il n'avait pas de titre. Il disait, bah, écoute, tu mets une onomatopée, ça fera le titre de la chanson. Et puis voilà, on met ça sur l'album, c'est bon, allez.
Il y a énormément de moments drôles avec Hideo Kojima, comme ça, qui soit comprend pas très bien les mots qu'on lui dit, soit qui interprète mal les mots, et ça va être succulent tout le long de l'épisode. Le morceau, lui, il est composé par Iku Mizutani, qui est membre du fameux Konami Kukeya Club, qui est juste le nom du département son chez Konami, le Konami Kukeya Club. Et avant de devenir indépendant, Iku Mizutani, il a travaillé pour cette structure très très longtemps. Et maintenant, il est passé freelance et il a une société qui s'appelle Sound Fountain. Le MSX2, c'est une machine qui est pas trop mal fichu concernant la partie sonore, honnêtement. Elle dispose de 3 voix et de 8 octaves, donc c'est assez puissant pour l'époque. Mais les musiciens de chez Konami, à l'époque, ils n'étaient pas familiers avec le matériel. Et c'est pour ça que les musiques de Metal Gear, elles sont assez restreintes. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais bon, ça n'empêche pas Monsieur Mizutani de nous créer un thème qui est iconique et qui va être repris dans tous les missions bonus VR des épisodes PlayStation tard.
On va l'entendre beaucoup, celui-là, après.
On va beaucoup l'entendre. Comme on l'a dit, Hideo Kojima, c'est un fan de films, et surtout de films venant d'Hollywood. Donc Metal Gear, il est certes inspiré par La Grande Évasion, mais le personnage de Snake, lui, il est inspiré par le personnage principal joué par Kurt Russell dans le film de John Carpenter qui s'appelle Escape from New York, qui en France s'appelle New York 1997, et son personnage s'appelle Snake Plissken. D'ailleurs, il faut savoir que Canal+, qui détiennent les droits d'exploitation de Escape from New York, ont voulu attaquer en justice Konami lors de la sortie de Metal Gear Solid sur PlayStation. À cause de ça, à cause de Snake Plissken, mais John Carpenter les en a dissuadés, disant que non, Kojima, c'est un mec sympa, donc non, faites pas ça.
C'est incroyable comme histoire, quand même.
C'est assez ouf. Au-delà de toutes les autres références subtiles disséminées dans le jeu, parce qu'il y en a vraiment, il y en a beaucoup, on va pas toutes les passer en revue, il y en a une qu'on peut pas rater, c'est le personnage qui apparaît sur la jaquette du jeu. La jaquette du jeu MSX et NES un peu plus tard. Parce que c'est vraiment un copier-coller sans honte de la pose et de la tenue de Kyle Reese, qui est le personnage du premier Terminator. Pour ceux qui écoutent ça sur YouTube, je vais mettre une photo de cette jaquette parce que avec l'image de Kyle Reese à côté, parce que c'est abusé, honnêtement.
Ouais, je pense qu'ils ont décalqué. Hein.
Ouais. Et pour le coup, c'était pas l'intention de Kojima. C'est vraiment l'équipe marketing qui a décidé de faire ça dans leur coin. Kojima, d'ailleurs, il était pas content du tout quand il s'est rendu compte de ça. Parce que malgré son amour du cinéma, là, c'est juste du plagiat. Et ça lui plaît pas. Et c'est pas la seule affaire de plagiat dont on va parler, d'ailleurs. Hein? Mais on y reviendra plus tard. À sa sortie, bon, Metal Gear, il a cartonné, honnêtement. Au Japon, il a vraiment cartonné. Et donc, Konami se dit, on va lancer un portage tout de suite sur NES.
Ah oui.
Mais apparemment, Kojima, il est pas fan de la version NES. Je sais pas si tu peux nous en dire plus.
Kojima, il a pas beaucoup, il a même pas du tout aimé la version NES du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le jeu sort sur MSX2 à l'origine, la machine marche très bien au Japon, donc le jeu, c'est vrai, c'est bien vendu Metal Gear au Japon. Par contre, du coup, il s'est il n'a pas vraiment marché à l'international. Il est sorti en Europe à l'époque, Metal Gear. Mais étant donné que le MSX n'était pas non plus une machine très populaire en Europe, il n'a pas vraiment marché là-bas. Et il n'est pas sorti du tout aux États-Unis parce que les études de marché étaient très claires. Le MSX, il existait bien aux États-Unis, mais personne n'en achetait là-bas. Tous les gens achetaient des Commodore ou des Atari ou des machines concurrentes. Et donc, le MSX étant un marché plus ou moins inexistant là-bas, pas de sortie de Metal Gear aux États-Unis. Pour Konami, c'était un petit souci parce que du coup, c'est quand même un très très gros marché, les USA. Donc, ils se disent, une bonne manière de sortir le jeu aux États-Unis quand même, c'est de le sortir sur Famicom, donc sur NES. Et donc, effectivement, ils lancent le portage du jeu. Ça avait donc pour double avantage de toucher le public de la NES, donc un nouveau public, et en plus de sortir quand même le jeu aux USA. Le problème, c'est que quand ils font ça, on va voir que c'est quelque chose d'assez récurrent chez Konami, de manière générale, c'est qu'ils prennent la décision de faire ça sans en parler aux équipes, sans en parler à Kojima, sans même en parler à l'équipe qui développe le jeu. On pourrait se dire, l'équipe qui a fait le jeu sur MSX, ils vont la reprendre pour faire le jeu sur NES. Pas du tout. À ce moment-là, l'équipe est même pas au courant que Konami a envoyé la totalité de leur code à une autre équipe dans des autres bureaux à Tokyo pour les charger du portage du jeu sur NES.
Putain, c'est fou.
Personne n'est au courant là-bas à ce moment-là. Le portage du jeu sur NES se fait donc dans des bureaux à part de ceux qui ont servi pour le développement du MSX. Et donc, globalement, le portage du jeu NES, la version NES du jeu reste plus ou moins la même. C'est toujours Solid Snake qui infiltre une base, qui doit détruire une machine, etc. Là-dessus, pas de problème. Il y a quand même quelques changements dans la version NES qui sont plus ou moins importants et qui vont, de manière générale, plus ou moins irriter Kojima. Déjà, le jeu commence pas par une phase d'infiltration sous l'eau. On va voir que le thème de s'infiltrer dans une base sous l'eau, ça va revenir souvent, dans les Metal Gear aussi d'ailleurs. Mais ça commence pas par une phase d'infestation sous l'eau. Là, en fait, ton personnage est parachuté dans la jungle et arrive avec en plus deux ou trois autres commandos qui sont... On sait pas qui c'est, on ne connaît pas leur nom, on les revoit jamais.
Quoi?
Pendant les... Je sais pas. En fait, il y a une scène d'intro sur NES où tu vois ton personnage parachuté avec 3-4 autres personnes en même temps dans la jungle. Et ces 3-4 autres personnes sont complètement disparues, tu ne les revois jamais, tu sais pas qui c'est. Voilà.
Très bien.
Il y a plein de petites anomalies comme ça dans la version NES où tu sais peut-être pas certain que les gens qui ont porté le jeu ont bien compris ce qu'était le jeu d'origine. C'est ça aussi le problème quand tu mets deux équipes pour faire un seul jeu. Mais bon. Donc ça, c'est un des changements parmi plein d'autres. On pourrait parler du fait qu'il y a pas mal de combats de boss qui ont changé, qu'il y ait pas mal de trucs comme ça qui soient différents. Mais le plus gros problème, le plus gros affront pour Kojima, c'est le combat final, ou presque le combat final, je vais pas spoiler, mais où au lieu d'affronter le Metal Gear, tu affrontes dans la version NES une espèce de gros ordinateur, de super calculateur. Et c'est pas du tout le robot, tu vois jamais le robot qui donne son nom au jeu, en fait. Et dans une interview qui a été donnée plus tard par un des programmeurs de la version NES qui s'appelle Masahiro Ueno, il a expliqué que Konami leur a envoyé le code du jeu et leur a donné 3 mois pour faire un portage du jeu sur NES. Oh, et que du coup, y a pas mal de choses qu'ils ont juste pas eu le temps de faire. Mais pour le problème du Metal Gear, c'est pas vraiment qu'ils ont pas eu le temps ou qu'ils ont pas voulu ou qu'ils avaient une autre idée, c'est juste que la NES, avec les outils qu'ils avaient à l'époque chez Konami, elle était juste pas capable d'afficher un Metal Gear en entier. Et donc, ils ont foutu un ordinateur à la place en disant, comme ça au moins, il y a un boss et puis tant pis, quoi.
Très bien, magnifique. Donc, après ce portage sur NES, Konami veut une suite tout de suite parce que il faut capitaliser dessus. Mais Kojima, lui, de son côté, il avait déjà commencé à travailler sur un nouveau jeu qui s'appelait Snatcher. Donc Konami, il lance la suite sans lui et sans lui en parler. Classique.
Oh, encore une fois.
Un titre qui sortira sous le nom de Metal Gear Snake's Revenge. Et on va pas en parler parce que c'est pas réalisé par Kojima, très honnêtement. On va juste dire qu'au hasard d'une rencontre dans le train avec un des développeurs de cette suite, Kojima, déjà, il apprend que le jeu, il est en développement. Déjà. Et ensuite, que les gens sont très frustrés par ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils disent que ça se voit que le réalisateur du premier n'est pas impliqué. Donc Kojima, il est un peu énervé, donc il rentre chez lui et il se met à écrire le scénario d'une suite officielle qu'il pourra faire une fois son projet fini, Snatcher, le projet Snatcher. Et cette suite, ça s'appelle Metal Gear 2, 2. Solid Snake. Ça sort sur MSX2 en 1990. Et contrairement à Snake's Revenge, c'est un vrai bond en avant pour la série, là, honnêtement, parce que l'équipe, elle voulait que la suite soit le plus réaliste possible. Tous les membres de l'équipe, ils partent dans des camps d'entraînement, militaire pour apprendre à tirer, apprendre à se cacher, pour vraiment s'imprégner de l'ambiance qu'il voulait insuffler au jeu. Il y a même certains membres de l'équipe qui se sont mis à venir au travail en treillis militaire. Donc ça, bon, c'est un peu limite. Quoi. Et Metal Gear 2, il a également bâti les véritables fondations pour toute la série, très honnêtement, parce qu'on a les personnages de Fox, de Big Boss, de Roy Campbell, on a le passé de Snake, mais on a aussi les cartons pour se cacher. Enfin, même si dans cet épisode-là, c'était un seau, mais on pouvait se cacher sous un seau. Il y a le radar, le fameux radar qui apparaît, il y a le fait de ramper au sol, la vision de nuit, les boss qui sont over the top, mais il y a aussi les twists narratifs. Ben oui, car cet épisode, il prend beaucoup plus de temps pour nous raconter son histoire. Il y a des séquences de dialogue beaucoup plus poussées, des retournements de situation, et même une partenaire qui s'appelle Holly White, qui nous accompagne durant toute la mission. Ce qui prouve que, encore une fois, Hideo Kojima, il veut rapprocher son jeu du cinéma. D'ailleurs, ouais, les personnages sont fortement inspirés du cinéma, apparemment.
Oui, très fortement inspirés du cinéma. Effectivement, ce qu'on peut noter sur les deux premiers Metal Gear, tu l'avais déjà dit pour Snake Plissken, qui a inspiré des personnages dans le premier, c'est que il a dû piocher un peu dans le cinéma à l'époque des deux premiers Metal Gear. En fait, Kojima, il n'avait pas encore son caractère designer fétiche, qui s'appelle Yuji Shinkawa. Il l'a embauché plus tard. Mais avant qu'il soit là, bon, bah, il a bien fallu quand même s'inspirer de quelque chose pour designer les personnages de l'univers de Metal Gear. Et même s'il a beaucoup évolué entre-temps, à l'époque, eh ben, on a pioché là où Kojima connaissait bien son sujet, c'est-à-dire dans le cinéma. C'est particulier dans Metal Gear 2 parce qu'on les voit souvent, les personnages, dans le sens où à chaque fois qu'il y a une conversation radio par le codec, on voit leur portrait dans le coin de l'écran, et donc on voit souvent leur tête, et donc il fallait qu'ils aient des têtes reconnaissables. Ce que Kojima a décidé, c'est que donc chacun des personnages importants allait avoir son visage basé sur une personnalité du cinéma. Alors je vais pas tous les faire, on sait que pour le coup, dans cet épisode-là, c'est Big Boss qui est basé sur le personnage, sur Kurt Russell. Le visage de Solid Snake, lui, s'inspire de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Mais c'est pas tout. Le personnage de Natasha est basé sur l'actrice Anne Brunner, qu'on voit apparaître notamment dans Halloween 2 ou dans Drôle de Dame. Le personnage de Kessler, lui, il est basé sur Dolph Lundgren, le boxeur dans Rocky.
4.
Je sais plus combien, par contre, mais oui, probablement. Roy Campbell, lui, le colonel, il est basé sur Richard Crenna. Richard Crenna, c'est justement le fameux colonel de Rambo auquel il fait si souvent référence. Du coup, c'est assez intéressant de voir que le colonel Roy Campbell est basé sur le colonel de Rambo. Voilà.
Ah oui.
Faut savoir quand même que pour la ressortie de Metal Gear 2 dans les années 2000, le jeu a été réédité ensuite plusieurs fois. Kojima a quand même fait refaire tous les portraits du jeu par Yuji Shinkawa. Déjà pour arrêter d'avoir des têtes de célébrités des années 80 dans son jeu qui ressortait aux années 2000, mais aussi, surtout, pour faire coller les portraits des jeux à ce moment-là, justement au nouveau design que Shinkawa avait fait à partir de Metal Gear Solid et pour harmoniser un petit peu le tout. Donc, pour le coup, ce que Shinkawa a fait, c'est qu'il a repris les designs qu'il avait fait à l'époque pour le jeu Metal Gear Ghost Babel sorti sur Game Boy. Celui-là, je vais en reparler plus tard, parce que même si c'est pas un épisode canon, il est très important, mais on y reviendra.
Très bien.
Ah oui, non mais...
Oui, non, mais
j'en ai gros sur la patate. J'ai des trucs à dire.
Il n'y a aucun problème, calmez-vous. Ce n'est que le début. Pour Metal Gear 2, donc on l'a dit, il y a des grosses ambitions sur ce jeu. Donc forcément, la musique, elle se devait de suivre et d'être conséquente. Et là, le Konami Kokeya Club, il ne nous déçoit pas, hein, parce que la BO, elle contient une quarantaine de morceaux. C'est énorme. Et pour être sûr que la qualité, elle soit au rendez-vous, les ingénieurs du club, ils greffent une puce custom aux cartouches du jeu. La puce, elle s'appelle la puce SCC et elle permet d'étendre les capacités sonores du MSX. Donc là, on a une BO qui est vraiment bonne. On a un thème principal, d'ailleurs, le thème de Solid Snake qui sert d'intro. Là, j'ai décidé, au contraire, de passer un thème calme parce que c'est un thème qu'on entend pendant les dialogues, notamment un dialogue entre Snake et Natasha. Et pour moi, ça souligne vraiment les efforts scénaristiques de ce nouvel épisode. Donc, on va s'écouter le morceau qui s'appelle Wavelet. morceau, je sais pas ce que t'en penses, moi j'adore ce morceau.
Ah non, mais moi j'adore, il est très très bon.
Non mais c'est vrai, tu vas tout adorer.
Non mais j'ai juste une petite précision, parce que j'y pense là, parce que comme on le sait, la saga Metal Gear, on va en parler, il y a beaucoup de retcon, de trucs qui changent, etc. Et pour le coup, vu que cette musique-là, elle fait un peu plus ou moins office de thème de Natasha, il y a une précision à apporter, c'est que le personnage de Natasha, elle a changé de nom entre les éditions de Metal Gear 2, en fait. À la base, elle s'appelle Natasha pendant la sortie au Japon, et moi, c'est comme ça que je connaissais le perso, parce que j'avais fait une fantrad au début des années 2000, et que bah, elle s'appelait Natasha. Mais quand ils ont ressorti le jeu en 2004, je crois, la première fois, ils ont changé le nom du personnage pour Gustava, parce qu'en fait, ils voulaient pas que les gens la confondent avec la Natasha de Metal Gear Solid, dont on va parler juste après, mais ils voulaient pas qu'il y ait deux persos différents dans le même univers qui s'appellent Natasha, donc ils ont renommé la Natasha de Metal Gear 2, pour éviter la confusion. Donc c'est pour ça, si jamais vous jouez au jeu maintenant et qu'il n'y a pas de Natasha dans le jeu, c'est normal, elle s'appelle Gustava maintenant.
Ah bah tu fais... C'est une très bonne précision, tu fais bien le préciser. Donc après la sortie de Metal Gear 2, Kojima, là, il se met à travailler sur un autre jeu qui s'appelle Police Note, qui est un projet très ambitieux de point and click slash film d'animation slash enquête noire, qui est finalement une version plus de Snatcher qu'il avait déjà fait avant. Il code lui-même les bases du moteur pour plus de flexibilité et il met la série Metal Gear bah, complètement de côté parce que là, il se concentre vraiment sur Police Note. Cependant, il y a la sortie de la PlayStation 1 là, qui pointe le bout de son nez et les capacités techniques de cette machine ravivent la flamme Metal Gear dans le cœur de Hideo Kojima. Donc, il se remet à travailler dessus juste après Police Note.
Pour la petite histoire, très très rapidement, à la base, il avait prévu de faire... Metal Gear sur 3DO, puisque c'est là-dessus qu'il développait Police Notes au départ. Et il s'est dit, bah, une fois que je l'ai fini, je vais faire Metal Gear sur 3DO, sauf que la 3DO s'est cassée la gueule juste après. Et donc il a dit, bon, ben, on va trouver une autre machine alors.
Ouais. De fait, en 98, sort sur PlayStation, Metal Gear Solid, et là c'est une véritable... c'est une onde de choc. Hein. Là, il est cité ce jeu dans énormément de tops comme étant le ou l'un des meilleurs jeux de la machine, voire de sa génération, et c'est incroyable l'impact qu'a eu ce jeu. Et la première chose qui a marqué tout le monde, c'est le jingle qui accompagne le logo Konami lorsqu'on lance le jeu. Donc on va s'écouter ce jingle. Alors la première fois qu'on lance le jeu et qu'on a ce jingle avec le logo de Konami, on se dit « Hein ?» Qu'est-ce que c'est ça ? Ensuite, on se dit, ah putain, c'est excellent. Et après, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi cette musique ? J'avoue que moi, de mon côté, j'avais toujours assumé que c'était une décision de Konami qui cherchait à créer une identité sonore pour l'apparition de leur logo. Sauf qu'on n'a plus jamais entendu cette musique. Donc, je ne comprenais pas trop. En fait, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il s'agissait d'un réarrangement de la musique du générique de fin du jeu Police Note que Kojima venait de boucler et qui était sorti que au Japon. Alors juste pour le plaisir, je te propose qu'on s'écoute un extrait de ce générique de fin de Police Note parce que la ligne de basse...
Avec grand plaisir.
Allons-y. Cette ligne de basse, incroyable. J'adore.
Ouais.
Cette musique, elle est vraiment bien. Après, ça part dans un délire orchestral et tout. Je vous conseille de l'écouter. C'est vraiment une super musique. Mais c'est pas le seul hommage. à Police Note qu'on trouve dans Metal Gear Solid finalement, parce que bon, il y a tous les easter eggs, de toute façon la série est remplie d'easter eggs, on va pas trop en parler ici parce qu'il y en a trop, tout simplement. Ouais. Mais on a le personnage de Meryl qui est directement repris de Police Note finalement. Et apparemment, bon, je vais te laisser nous parler de Police Note parce que t'as des choses à dire. Donc, vas-y.
Oui, effectivement, Police Note, c'était un petit peu un jeu un peu coup de gueule de la part de Kojima, pas tant le jeu lui-même, mais la raison pour laquelle il s'est mis dessus, parce que effectivement, quand Kojima a commencé, lui, à travailler sur la saga Metal Gear, c'était seulement le deuxième jeu de sa carrière et le premier en tant que réalisateur. Donc, il savait pas programmer. Il était game designer, mais pas vraiment codeur. Donc, Konami lui a mis à disposition toute une armée de développeurs pour faire le code du jeu et que le jeu s'assemble et qu'il y ait quelque chose à la fin. Mm-hmm. Sauf que lui, ça le gonflait au plus haut point de pas pouvoir tout faire lui-même. Dans une interview qu'il a donnée au Guardian en 2012, il explique, je cite, c'était extrêmement frustrant de faire des jeux à l'époque pour moi. Je disais au programmeur ce que je voulais montrer à l'écran quand je voulais qu'un dialogue apparaisse ou qu'une note de musique arrive, mais il faisait pas exactement ce que je voulais. Il changeait toujours quelque chose s'il pensait que c'était mieux. Donc après la sortie du deuxième Metal Gear, j'ai appris à coder mon propre moteur et j'ai travaillé sur des jeux d'aventure pour avoir un contrôle complet sur le moment où les animations et les musiques se lancent. C'était un moyen de reprendre le pouvoir aux développeurs. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Et c'était le côté contrôle fric quoi de Kojima, voilà, hein, il faut qu'il décide de tout. Bah oui. Et donc c'est comme ça que Police Notes est né. C'est au passage également sur cette même logique un petit peu qu'il avait commencé Snatcher à l'époque, même si c'est juste parce qu'il pensait qu'il ferait plus de Metal Gear de toute façon. Mais voilà, Police Note, c'est vraiment comme ça qu'il s'est lancé dedans en se disant « J'en ai marre de devoir donner des ordres aux gens qui les écoutent pas, je vais tout faire moi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Et donc du coup, là, vu qu'il se lance sur son propre projet, il peut avoir sa petite équipe et c'est là qu'il va embaucher son caractère designer fétiche qui s'appelle Yoji Shinkawa, pour qui ça sera le tout premier jeu, en tout cas chez Konami. Et c'est là qu'ils vont commencer à bosser ensemble et c'est à partir de là, justement, qu'ils vont se dire « Tiens, peut-être qu'on peut reprendre certaines idées de ce jeu qu'on est en train de faire pour les mettre dans le prochain Metal Gear. Qui sait ?
Qui sait ? Mais d'ailleurs, fort de cette expérience très cinématique qu'ils avaient dans Police Note, parce que c'est quasiment un animé interactif, Police Note,
oui.
Metal Gear Solid, il se lance avec une cinématique d'intro qui, pour l'époque, est vraiment impressionnante. Parce que les cadrages, ils sont hyper travaillés. La musique, elle est sérieuse. L'ambiance, elle est très, très bonne. On suit Snake qui est envoyé dans un sous-marin sur le lieu de sa mission pendant qu'on lui fait un briefing de ses objectifs, etc. Enfin, cette intro, elle est vraiment excellente. Et on découvre les voix de nos protagonistes. Alors bon, moi, je vais parler de la version anglaise parce que la version française, bon, on le sait, elle est très caricaturale. Voilà, bon, c'est une bonne blague, la version française. Moi, j'ai parlé de la version anglaise qui, elle, est beaucoup plus sérieuse, en fait, avec quelqu'un qui s'appelle David Hayter, qui fait la voix de Snake et qui nous fait un Snake très viril, badass, mais sans jamais être trop kitsch. Sa voix, elle est vraiment bonne. L'équipe, d'ailleurs, elle fait appel à des acteurs pas connus parce que, bon, ils n'ont pas énormément de moyens. Et la plupart des acteurs, ils changent leur nom pour le générique d'intro du jeu parce qu'à l'époque, ils pensaient que la guilde des acteurs, elle ne serait pas d'accord avec ce genre de contrat. Ça montre un peu le regard qu'a le cinéma sur le jeu vidéo dans ces années-là. C'est assez fou.
Ouais, c'est dingue, ouais.
La légende raconte d'ailleurs que l'entièreté des dialogues de Metal Gear Solid ont été enregistrés sur un week-end dans une sorte de maison ou de local mal isolé et pas dans un studio professionnel. Ce qui fait qu'on peut entendre, à de rares occasions, les bruits de la circulation en fond pendant que les gens parlent.
C'est marrant parce que du coup, ils n'ont pas donné leur nom pour ne pas se faire choper par le syndicat. Et en plus, ils ont fait ça en cachette pendant un week-end. Ça fait vraiment le travail clandestin presque.
Ouais, c'est assez fou. Ouais, c'est assez fou. Et pourtant, quand tu vois le nombre de dialogues qu'il y a dans Metal Gear Solid, c'est du boulot, hein, honnêtement. C'est colossal. Bon, Metal Gear Solid, c'est un jeu en 3D. Donc, il fallait une nouvelle esthétique visuelle. Donc, Hideo Kojima, il refait appel à Yoji Shinkawa, le grand maître Shinkawa, qui a une technique tellement particulière et magnifique. Je suis fan de son style graphique. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent à l'époque. Donc, Monsieur Shinkawa, il commence par dessiner les concept art des personnages pour faire entrer tout ça dans la nouvelle génération. Et il travaille avec l'équipe de design pour pouvoir créer les modèles et les textures pour que l'équipe design puisse reproduire ses dessins en 3D. Le fait que les textures dessinent les traits du visage assez intelligemment pour reproduire les concept art de Yuji Shinkawa. Ça permet déjà d'économiser sur les détails, sur les animations de la tête, etc. Et ça permet de garder beaucoup de personnalité pour tous les personnages. C'est vraiment une bonne idée. Le personnage de Snake, lui, il finit avec 690 polygones, ce qui n'est pas du tout la norme à l'époque, parce qu'on tournait plus autour des 300-400 polygones pour un personnage. Et finalement, Yuji Shinkawa, il s'occupera des jaquettes et des matériaux promotionnels, inscrivant vraiment son style dans l'ADN de Metal Gear, clairement. Ce style qu'on peut apercevoir dès l'apparition du menu principal du jeu, d'ailleurs, parce qu'à la fin de la cinématique d'intro, on a le menu qui apparaît, on a le visage de Snake qui apparaît, entouré de fils très ambiance technologique. Et on est accompagné par ce thème génial, composé en mi mineur, toujours composé par le Konami Kokeya Club, qui s'appelle Shadow Moses, et que je te propose qu'on écoute, tout simplement.
Ah ben allons-y.
Bienvenue dans la nouvelle génération. Honnêtement, moi ce thème je trouve génial parce que là, le club sonore, le fameux Konami Kokeya Club sur Metal Gear Solid 1, il comporte 7 personnes, donc c'est beaucoup. On a Kazuki Muraoka, on a Hiroyuki Togo, Takanari Ishiyama, Lee John Myung, Maki Kiryoka, Rika Muranaka, qui est une grande compositrice dont on va reparler très souvent, et Tapi Iwase, dont on va reparler aussi, mais pour d'autres raisons. Petit teasing. Étant son jeu cinématographique ultime, là, Hideo Kojima, il passe énormément de temps sur le level design pour être sûr que les cinématiques seront bonnes dans les environnements qu'ils vont créer. Et le processus, il est très amusant. Pour préparer le design des niveaux, l'équipe et Kojima ont construit des maquettes en utilisant des Lego. Et ensuite, ils vont filmer ces maquettes avec des caméras pour préparer les cutscenes et se rendre compte, avant de passer sur l'ordi, si les niveaux sont bons et si les cutscenes vont fonctionner. Ce travail fut si intense et long que le fils de Kojima a dit à l'école que le métier de son papa, c'était de jouer avec des Lego toute la journée, finalement.
Est-ce qu'il avait vraiment tort ?
Ouais, non, je pense pas. Kojima aussi, il voulait que la musique, elle soit cinématique et interactive au possible. Il voulait qu'il n'y ait pas d'interruption, en fait, que toutes les pistes s'enchaînent de manière fluide, que ce soit entre les environnements, que ce soit quand il y a des changements abrupts et que tout soit hyper fluide, ce qui, à l'époque, sur PlayStation 1, est méga dur à faire. Honnêtement, on n'avait pas vraiment la technologie pour ça. Donc, l'équipe, très maligne, décide de composer la quasi-totalité de la BO en la mineur, ce qui fait que quand on a une piste qui change ou qu'on passe d'une piste à l'autre, en fait, il n'y a pas de saute notable. Tout s'enchaîne bien parce que tout est composé dans la même tonalité, en la mineur.
C'est pas bête. Ouais.
C'est pas bête du tout, non. C'est très, très malin. Parce que la musique, en plus, elle est très ambient. C'est vraiment de la musique d'ambiance avec des petites percussions très lentes et très marquées. Parce que le but, c'est de garder l'attention du joueur sur ce qui l'entoure et sur les sons qui l'entourent. Donc, il ne faut pas que la musique soit trop présente. Et en même temps, il ne faut pas que la tension se relâche. Donc, la musique doit être là pour créer une petite tension constante. Et pour ça, la musique, honnêtement, elle remplit très, très bien son office. Et le fait que tout soit en la mineur, ça permet de passer d'une musique à l'autre sans que notre cerveau y pense, finalement. Mmh. Par exemple, quand on se fait repérer, je vais passer un petit extrait. J'ai juste pris une musique d'ambiance. J'ai enchaîné avec la musique où on se fait repérer. Et après, j'ai remis la musique d'ambiance. Et tu vas voir que tout s'enchaîne très, très bien. We'll be right back. voilà, tout s'enchaîne de manière fluide.
Ouais, ce qui est vraiment intéressant dans l'exemple que tu donnes là, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est la même musique, mais qui s'accélère, en fait, quand tu t'es fait choper. Ouais. Et donc, bah, c'est l'adrénaline, il faut que tu cours pour te cacher, machin. Et t'as vraiment le sens que c'est la même musique que t'entends depuis le début, mais qui s'est juste accélérée pour te dire qu'il faut que tu te barres, quoi.
Ouais, c'est vraiment malin. Et tout est composé comme ça, et ça marche super bien. Bon, il y a des thèmes mélodiques, hein, quand même. Eux, ils sont gardés pour les cinématiques, les moments d'émotion, parce qu'il y a beaucoup de moments d'émotion dans Metal Gear Solid, beaucoup plus qu'on pourrait penser. Le jeu nous présente une galerie de personnages très éclectiques. On a Otacon, le hacker gigaweeb. On a Meryl, la jeune recrue qui veut faire ses preuves. On a Ocelot, le cowboy à moustache. Liquid, Snake, le super antagoniste torse nu la moitié du jeu.
Oui, il faut rappeler que le jeu se passe en Alaska quand même. Hein.
oui, tu fais bien le préciser. On a Sniper Wolf, la tireuse d'élite qui est légèrement ravagée du cerveau. Ou alors on a Psycho Mantis qui peut lire votre carte mémoire et les commandes de votre manette si elle est branchée sur le port 1, etc., etc. Donc chacun d'entre eux dispose finalement d'un moment d'introspection dans le jeu ou de révélation. Même les boss, qui, une fois qu'on les bat, ils prennent le temps de nous expliquer leur histoire sur fond de musique triste. Alors bon, ça paraît super kitsch raconté comme ça, mais en fait, les interactions, elles fonctionnent à fond, et surtout en 98, où la profondeur des personnages dans un jeu vidéo, c'est un fantasme, hein, donc ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et concernant ces moments de sérieux, de tristesse et de mélancolie, bah, la compositrice Rika Muranaka, elle prend le temps de réfléchir à ce qui serait le plus impactant pour ces moments. Et finalement, elle se dit que le mieux, ce serait d'avoir une voix mélancolique. Ce serait la meilleure approche. Elle va en parler à Kojima, qui lui dit « Ouais, ok, mais il ne faut pas que ce soit une langue connue, parce que je ne veux pas que ça prenne le pas sur la narration.
Ouais. »
Et il lui dit... elle lui dit qu'elle pensait faire une chanson en gaélique, justement. Et là, Kojima, il lui répond « C'est quoi ça, le gaélique ?» Ce qui confirme que c'est la bonne approche.
C'est un peu comme le Klingon, mais dans la vie réelle.
Le morceau, il s'appelle « The best is yet to come » et c'est probablement la chanson la plus iconique de la série, honnêtement. Elle est chantée par une chanteuse qui a un nom imprononçable, donc je vais sûrement me tromper, mais bon, c'est la vie. Hein. Alors, elle s'appelle Aoif Ni Feareg. Je sais vraiment pas comment le prononcer, je suis désolé.
Ouais, j'avoue, mais c'est du gaélique en même temps. ils mettent des lettres au hasard, j'en suis sûr. Hein.
Et donc, ça lance, mine de rien, la grande tradition qui veut que les jeux Metal Gear se concluent par une musique mélancolique chantée pendant le générique. Et bon, c'est le cas pour Metal Gear Solid 1 avec cette musique-là, mais cette musique-là, finalement, on peut l'entendre dès le début du jeu si vous y prêtez attention quand Snake arrive sous l'eau, justement, oui, dans la première zone du jeu.
Les toutes premières notes de l'intro, c'est le début de cette chanson, effectivement.
Exactement. Et cette chanson qu'on va s'écouter tout de suite. Allons-y. morceau que je me lasserai jamais d'écouter.
Non, qu'est-ce que c'est beau.
Tu l'as écouté combien de fois dans ta vie? À peu près 20 000 fois, Nico?
Oh, au minimum, ouais, à peu près.
Bon, alors, on va pas se mentir, lors de sa sortie, Metal Gear Solid... Bon, déjà, il surprend toute la communauté PlayStation parce que son gameplay varié, son histoire complexe, ses personnages travaillés, charismatiques, ainsi que tous les moments de génie dans le jeu dont on n'a pas parlé, comme le combat contre Psycho Mantis qui casse constamment le quatrième mur. Ça fait du jeu une sensation et c'est un succès commercial immense. Ce qui est tout nouveau pour Kojima, d'ailleurs.
C'est ça, il n'a pas exactement l'habitude d'avoir du succès comme ça à l'international. C'est-à-dire qu'au moment où Metal Gear Solid sort sur PlayStation, lui, c'est la première fois qu'il signe un jeu qui va être vendu largement en dehors du Japon. Metal Gear 1 sur MSX, il est bien sorti en Europe, mais il a floppé. Il compte pas vraiment la version NES parce que c'est pas lui qui l'a faite. Metal Gear 2, il est sorti qu'au Japon. Snatcher aussi, Police Notes aussi. Donc là, vraiment, il sait pas exactement comment le public va recevoir son jeu. Lui, ça fait 10 ans quasiment qu'il fait des jeux, mais c'est la première fois vraiment qu'il va être vraiment vendu aux USA, notamment. Donc, il ne sait pas comment ça va fonctionner. Et donc, il prend un peu la mesure du succès que le jeu va avoir quand il commence à voyager, justement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va se rendre en 1999 à Londres pour faire la promotion de la sortie du jeu en Europe. Et là, il va rentrer dans la boutique où se passe l'événement promotionnel de Konami autour du jeu et il se rend compte que tous les employés de la boutique, quand ils le voient entrer, ils le reconnaissent et ils l'appellent par son nom. Et là, il comprend pas. Il explique en interview que c'est le moment le plus surprenant de toute sa vie. C'est quand il rentre dans cette boutique à Londres. Le mec a jamais mis les pieds à Londres pour autre chose que des vacances. Et là, il arrive et tout le monde le connaît. Tout le monde l'appelle par son nom. Tout le monde connaît son travail. Et vraiment, ça le surprend. Et en fait, à ce moment-là, bon, il est content parce qu'il se rend compte qu'effectivement, le jeu a été bien reçu, que son travail est reconnu et que ça commence à prendre. Mais à ce moment-là, il pense pas du tout à ça. Lui, il pense à sa maman. En fait, il explique en interview, je cite, à cette époque, ma mère avait arrêté de parler de mon métier à ses amis. Elle me soutenait beaucoup au début, mais après une décennie, les enfants de tous ses amis avaient des postes importants dans des grandes entreprises, etc. Ils faisaient des grandes choses. Et je pense qu'elle avait un petit peu honte de mon travail à ce moment-là, parce que, le petit Kojima qui est rentré juste après l'école chez Konami, 10 ans plus tard, effectivement, bon, il est toujours un petit producteur de jeux, mais pas vraiment célèbre, pas vraiment connu, pas vraiment important dans sa boîte. Et ça a commencé avec Metal Gear Solid, vraiment. Donc, du coup, il dit, c'est à ce moment-là que sa mère a commencé à être fière de lui. Et il explique plus tard que à 70 ans, elle a commencé à jouer à ces jeux et elle a fait tous les Metal Gear à la suite.
C'est mortel, ça. Donc lui, comme tu as dit, énorme succès. Hideo Kojima, lui, il avait pensé Metal Gear Solid comme un remake de Metal Gear 2, finalement. C'est pour ça que l'histoire se ressemble un petit peu. Il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits entre les deux jeux. Et en fait, il avait prévu de passer à autre chose après la sortie du jeu. Mais là, devant le succès du jeu, y a une suite qui est lancée immédiatement. Et cette suite, d'ailleurs, elle est prévue pour être le porte-étendard de la prochaine console de Sony qui s'appelle la PlayStation 2. Donc là, devant cette montée en pression, en fait, l'équipe, elle se voit grossir. Elle passe de 15 personnes à environ 70 personnes, réparties sur deux studios, l'un à l'est du Japon et l'autre à l'ouest. Et là, pour motiver tout le monde, Kojima, il a une super idée. Il met en place ce qu'ils appellent les IDs Notebook. En fait, chaque personne de l'équipe se voit offrir un cahier dans lequel il est fortement recommandé d'écrire au moins une idée pour le jeu par jour. Kojima et l'équipe de supervision, ils passent en revue les idées des cahiers à la fin de la journée. Et si une idée semble prometteuse, les développeurs, ils peuvent la tester en faisant un prototype. Et si le prototype est validé, ça entre dans le jeu final. Et en fait, il y a plein d'idées de Metal Gear Solid 2, comme par exemple le gaz refroidissant pour stopper les bombes, cacher des ennemis dans les casiers, ou alors le fait de pouvoir passer la tête pour regarder derrière un coin de mur. Elles viennent de ces notebooks de l'équipe.
Ah, c'est très très bon ça.
C'est une super idée. Et alors, le moteur qui fait tourner Metal Gear Solid 2, lui, il est développé de zéro en interne par les ingénieurs de Konami, les grands ingénieurs de Konami. Parce que vraiment, pour l'époque, Le résultat, il est
juste incroyable. Ouais.
Hallucinant. Il y a énormément de trucs et astuces qui sont utilisés dans le jeu, comme le fait d'avoir des géométries inversées sous le sol pour simuler des réflexions dans les flaques d'eau, ou les impacts de gouttes sur chaque personnage. On a énormément d'assets dans le jeu qui ont une physique. On peut tirer sur tout ce qui bouge et tout va réagir. On a de la motion capture pour la première fois, pour les animations. Le jeu est en 60 FPS. On a une IA qui est extrêmement bien développée, qui est super réactif, qui a beaucoup d'états différents possibles. Enfin, honnêtement, c'est un miracle hein, quand ils sortent.
Mais c'est en fait, et pour vous faire une idée, si vous n'avez pas fait les jeux, c'est pas très compliqué. Vous cherchez une capture de Metal Gear Solid 1, vous la mettez à côté d'une capture de Metal Gear Solid 2, et vous vous dites que les deux jeux sont sortis à 3 ans d'écart.
Ouais.
Et on dirait qu'il y a 3 générations d'écart entre les deux jeux. C'est incroyable le résultat qu'ils ont eu.
Incroyable. Pour un moteur développé de zéro, franchement, les ingénieurs, ils sont surpuissants. Et à sa sortie en 2001, bah, vraiment, c'est un rêve éveillé pour tout le monde, hein, Metal Gear Solid 2, vraiment. Hein. Et le jeu, il paraît 10 ans en avance par rapport à la concurrence. Et je rigole à moitié. Il y a une démo qui est vendue en bundle avec le jeu Zone of the Enders, on en a parlé à l'épisode précédent. Et cette démo, elle comportait le premier niveau, qui est sur un bateau dans lequel Snake fait la rencontre de Ocelot, hein, qui est toujours là, et d'un nouveau Metal Gear. Et rien que cette démo, elle offre des heures et des heures de gameplay, beaucoup de secrets à trouver, et ça a créé une hype et une attente monstrueuse pour le jeu.
Je ne sais pas combien de temps j'ai passé sur cette démo, je te jure.
Ben voilà.
J'ai brûlé le disque, hein, je te jure.
Ben voilà. Mais surtout ce thème, cette musique d'introduction, parce que comme le premier Metal Gear Solid 2, il dispose d'une cinématique d'intro avant de voir apparaître le menu principal, sauf que là, c'est une cinématique en image de synthèse. Et elle explique pas l'histoire. C'est un peu comme un générique, comme le générique d'un film ou d'une série. Et cette musique de générique, aïe, 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 aïe.
Oh oui.
Thank you.
Ce final, putain, mais c'est les frissons à chaque fois. Hein.
Et se prendre ça en générique d'intro de ton jeu en 2001, c'est quelque chose. Hein. Waouh. Wow, wow, wow.
Ah oui.
Mais pendant le générique, j'ai vu le nom de Harry Gregson-Williams dans le générique. Ah. C'était écrit en dessous de compositeur. Mais il fait des films, lui, non? Eh ben ouais, parce que MGS 2 avait pour ambition d'être le blockbuster ultime. Donc Kojima, il a décidé de se tourner vers un compositeur d'Hollywood pour pouvoir atteindre son ambition. La première piste fut de contacter Hans Zimmer, mais Hans Zimmer était beaucoup trop cher, donc ils se sont rabattus sur quelqu'un d'autre.
Ah bah c'était déjà une rosta à l'époque, Hans Zimmer.
Ah bah oui, oui c'était trop cher. Donc ils sont allés voir Harry Gregson-Williams. Et pourquoi Harry Gregson-Williams? Et c'est qui Harry Gregson-Williams? Donc concernant le qui, on dira que c'est un compositeur britannique qui a appris la musique à l'école St. John's College à Cambridge dès l'âge de 7 ans. Il a ensuite fait ses marques et il a appris le métier de compositeur dans un petit studio qui s'appelle Media Venture, le studio de Hans Zimmer. Donc voilà, oh. On n'a pas Hans Zimmer, mais on a son poulain, hein, donc c'est pas mal. Et c'est là-bas, en fait, qu'il a forgé son style vraiment ambiance électronique, si reconnaissable, son style à lui, quoi, vraiment. Et... D'ailleurs, on peut dire que ses deux frères sont compositeurs également, compositeurs à Hollywood. Donc, c'est vraiment une famille de compositeurs.
Ouais, quand même.
Et concernant le pourquoi, maintenant, eh ben en fait, après avoir vu ensemble le film The Replacement Killer, Kojima et le directeur audio Kazuko Murakami, ils ont été très impressionnés par la musique de ce film et surtout par son énergie et l'utilisation des synthétiseurs qu'ils trouvaient vraiment excellente. Donc, ils décident de contacter le compositeur du film, qui est Harry Gregson-Williams, pour composer la musique du jeu. Lui, Harry Gregson-Williams, il n'avait jamais composé pour un jeu vidéo, mais il trouva que l'idée elle était fun, donc il a accepté. En plus, la commande, elle était simple, parce que là, on lui demandait de faire ce qu'il avait déjà fait plein de fois, on lui demandait de juste répéter ce qu'il savait faire. La chose surtout qui aida à le convaincre, en fait, c'est que Hideo Kojima, il lui avait envoyé un CD de musique de référence, et dans ce CD-là, il y avait la plupart des BO de Harry Gregson-Williams dessus. En fait, c'était un moyen pour Kojima de lui témoigner son amour. Et comme il l'a dit en interview, Harry Gregson-Williams, en fait, la flatterie, ça vous ouvre toutes les portes, donc c'est ce qui a permis de le faire signer sur le projet.
Un petit « j'aime beaucoup ce que vous faites », voilà. et puis c'est bon.
Voilà. Non, mais c'était malin. Et finalement, il faut noter que la musique, elle n'a pas été composée pendant le développement, vraiment. Harry Gregson-Williams, il a fait ses musiques de son côté, il a envoyé toutes les pistes à l'équipe, et c'est le directeur audio de l'équipe, et l'équipe musicale de Konami qui a dû faire en sorte de faire fonctionner chaque piste avec les cinématiques. Donc ils ont découpé, pareil pour les moments de gameplay, il a fallu découper, éditer, voire réorchestrer certains passages pour que tout rentre dans le jeu finalement. Alors forcément, quand on écoute le thème principal de MGS2, on se dit que Harry Gregson-Williams, c'était le meilleur choix du monde, hein, parce que le thème, il est hallucinant. Mais attention, déjà, le thème qu'on a entendu, en fait, c'est deux thèmes collés ensemble. La première partie du morceau et la toute fin, c'est une réorchestration du thème de Metal Gear Solid, composé par Tapi Iwase. Mais dans Metal Gear Solid, on l'entend que pendant certains trailers du jeu, ou alors pendant le générique de fin de notre troisième partie. Donc, on l'entend pas forcément quand on est un joueur lambda du jeu, on va dire. Et après, c'est la deuxième partie qui est une composition originale de Harry Gregson-Williams. Ensuite, le reste de la BO, il n'est pas mélodique comme cette intro. La plupart des morceaux, c'est des ambiances électroniques. Les thèmes mélodiques sont très, très rares. Mais ça fait du sens parce que Harry Gregson-Williams, ce n'est pas un compositeur mélodique. C'est plutôt un compositeur d'ambiance, lui. Il faut savoir qu'aussi, la musique de Metal Gear Solid, elle était assez sommaire. Et c'est vraiment les arrangements que Harry Gregson-Williams a fait qui a donné ce truc fantastique. Mais... dans le jeu, il y a un petit côté collage dans la BO parce que comme ils ont dû prendre les morceaux, les découper, les assembler un peu partout, la musique finalement, elle est assez en retrait pendant le gameplay. Mais l'ambiance générale du jeu, pourtant, elle se veut un peu plus décomplexée et un peu plus over the top que le premier, donc c'est assez amusant. Il faut savoir que MGS2, il s'ouvre sur une idée que je trouve de génie, nous faire jouer le prologue avec Solid Snake avant de changer de personnage et de nous révéler que tout le reste du jeu sera fait avec un jeune garçon nommé Raiden. Et l'équipe avait même interchangé les modèles de Snake et de Raiden pour les trailers du jeu, pour être sûr que ce soit une surprise pour tout le monde. Et l'idée pour Kojima, c'était de donner plus de profondeur au personnage de Snake, parce qu'il a utilisé Raiden, qui était un débutant dans Metal Gear Solid 2. On le joue pour rendre Snake encore plus impressionnant parce qu'on le rencontre au fil du jeu et on se dit voilà, ce mec il est vraiment fort. Raiden, il a été ajouté également pour attirer les joueuses parce qu'il s'était rendu compte que les filles étaient pas vraiment attirées par la série Metal Gear Solid, donc il a voulu essayer de les attirer en créant ce personnage très...
C'est fou, ils ont découvert que les gros barbus tout musclés, c'est pas forcément ça que les femmes elles veulent, c'est dingue.
Bizarre. Mais donc voilà, c'est le premier mensonge de MGS2 qui apparemment est un jeu plus ou moins basé sur le mensonge, non ?
Oh oui, MGS2 est complètement un jeu sur le mensonge. Alors attention, prépare-toi bien, j'espère que tu as ta camisole de force et ton chapeau en aluminium à portée de main, parce qu'on va entrer, on va creuser dans la théorie du complot la plus incroyable autour de Metal Gear Solid 2.
Super.
Donc, voilà, sans spoiler forcément le scénario de Metal Gear Solid 2, on comprend assez rapidement qu'effectivement, c'est un jeu qui est un peu basé sur le mensonge. Le jeu passe son temps à nous mentir, tout le monde nous ment, les méchants nous mentent, les gentils nous mentent, et nous, on passe notre temps à essayer de démêler le vrai du faux entre deux plot twists, sauf que ça va encore plus loin que ça, puisque, comme tu l'as dit, même le jeu et Kojima lui-même nous mentent quand on joue, et c'est un truc à nous rendre paranoïaques. Donc, on sait maintenant que Raiden est le personnage principal de la majeure partie de Metal Gear Solid 2, mais à l'époque de la sortie du jeu, effectivement, personne n'était au courant. Les trailers et les campagnes ne montraient que Solid Snake, cachaient complètement l'existence de Raiden, et ça va même plus loin que ça, puisque même les captures d'écran au dos de la boîte du jeu ne montrent pas du tout Raiden. Rien ne laisse penser que Raiden existe dans le jeu avant d'arriver au passage où vraiment tu le découvres. Et même le passage où vraiment tu le découvres, il est trompeur, puisque tu refais cette séquence d'infiltration où tu es sous l'eau, tu sais, ça reproduit exactement le début de Metal Gear 1, de Metal Gear Solid, etc. Tu arrives sous l'eau, et là, t'as ton premier appel codec avec le colonel Campbell, donc t'es vraiment en terrain connu, quoi. C'est des personnages que tu connais, tu vois où t'es, etc. Et là, Campbell, il t'appelle Snake. Donc tu te dis, ok, ton personnage porte un masque parce qu'il était sous l'eau. Tu te dis, ok, je joue Snake, pas de problème. Et là, il dit, attends, on va changer ton nom de code. À partir de maintenant, tu t'appelles Raiden. Tu fais quoi ? Mais pourquoi ? Enfin, ok, si tu veux. Et là, le personnage enlève son masque et tu te rends compte que tu joues pas du tout, du tout Solid Snake. Tu joues un blondinet tout mince. Voilà, donc c'est la toute première mission en conditions réelles. Mais attends, tu pensais que c'était le plot twist ? Ça va encore plus loin que ça. Creusons un peu. Le vrai prénom de Raiden dans le jeu, c'est Jack. Ça, on le sait, au fur et à mesure des discussions, on apprend que son vrai nom, c'est Jack. Ça a l'air de ne pas avoir beaucoup d'importance, mais c'est pas vrai. C'est extrêmement important. En fait, le jeu nous répète dès le début que Jack n'a jamais fait de mission sur le terrain. C'est sa première mission sur le terrain, et que, jusqu'à maintenant, il s'est très longtemps entraîné dans des simulations en VR. On connaît ce principe de simulation en VR, puisque c'était le concept d'une extension pour le premier Metal Gear Solid qui s'appelait tout simplement VR Missions, et dont le but, le scénario, c'était de jouer des simulations en VR avec Solid Snake pour
s'entraîner.
Propos d'entraînement, quoi, des militaires, voilà. Mais il y a pire que ça. Ça va encore plus loin que ça. En avril 2000, sort sur Game Boy le fameux jeu nommé Metal Gear Ghost Babel. Alors officiellement, le jeu n'est pas considéré comme canon. Kojima n'a pas travaillé dessus, il n'est pas crédité comme ayant travaillé dessus, il est producteur, mais c'est juste parce que c'est à lui qu'appartient la série, plus ou moins, désormais. Mais voilà, il n'a pas travaillé dessus, donc il n'est pas intervenu dans le développement de Ghost Babel, mais, dans le jeu, on joue Solid Snake. On doit remplir plusieurs missions d'infiltration dans une forteresse qui s'appelle Galuad. Petit aparté pour signaler que la forteresse de Galuad, elle est directement référencée par la suite dans Metal Gear Solid 2 par un dialogue avec Roy Campbell, alors qu'elle est censée ne pas exister, mais parce que c'est pas canon. Mais bref, c'est pas grave. Oubliez ça. Si tu joues assez bien au jeu, donc Ghost Babel sur Game Boy, tu finis par débloquer ce que le jeu appelle des Special Missions. Quand tu joues à ces Special Missions, tu joues toujours Solid Snake, t'as des nouveaux scénarios, des nouveaux objectifs, etc. Sauf que, après chaque mission, tu reçois un appel codec d'un personnage mystérieux qui s'appelle simplement Numéro 4. Tu sais pas du tout qui c'est, le jeu ne te dit jamais qui c'est, tu t'as aucune idée de qui c'est, de qu'est-ce qu'il fait là, tu sais pas trop ce qu'il raconte. Cette personne t'explique au fil des appels que tu joues pas réellement Solid Snake, mais que tu joues quelqu'un d'autre qui joue Solid Snake. Là, tu sais pas trop si le personnage te parle à toi, le joueur, ou si le personnage parle au personnage du jeu. En fait, t'es un peu perdu à ce moment-là. Mais tu finis par comprendre au fur et à mesure qu'en réalité, c'est effectivement pas des vraies missions, mais que ce sont des missions VR, comme dans Metal Gear VR avant ça. Par contre, tu sais toujours pas qui est cette personne qui joue Solid Snake et que tu joues à la place de Solid Snake. Tu sais toujours pas. Donc, tu continues à jouer, tu continues les missions, tu avances et arrivé à la dernière mission, ça déclenche le dernier appel codec de numéro 4, dont voici un extrait du message qui t'envoie à ce moment-là. Il te dit, je cite, « Ton entraînement est terminé, bien joué. Ton aptitude au combat est désormais clairement supérieure à Solid Snake à l'époque de la chute de Galuad. Ton heure arrive bientôt, repose-toi pour le moment. Jack. Et là, tu comprends, ouais, t'es censé, voilà, t'es censé comprendre que le personnage que tu joues, qui joue Solid Snake dans le jeu, s'appelle Jack. Il y a un truc à préciser par rapport à ça, c'est que Metal Gear Ghost Babel, il est sorti sur Game Boy en avril 2000. Mm-hmm. C'est un an et demi avant la sortie de Metal Gear Solid 2, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'au moment où Metal Gear Ghost Babel sort sur Game Boy, Konami n'a même pas encore annoncé l'existence de Metal Gear Solid 2. Donc, c'est un peu compliqué à relier. Le jeu n'est pas censé être canon. Tu ne sais pas qui est qui. Mais par contre, tu découvres a posteriori que, a priori, le Jack, que tu n'es même pas au courant que c'est lui si tu finis pas toutes les missions du jeu, que tu joues dans Metal Gear Isabelle, apparemment, c'est le Jack que tu retrouves, le Raiden que tu retrouves dans Metal Gear Solid 2. Voilà. Donc, le jeu qui n'était pas censé être canon, mais qui est référencé dans Metal Gear Solid 2, dont le personnage principal est aussi le personnage principal du jeu Game Boy. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, il y a toute une théorie sur Internet qui n'a jamais été confirmée ni par Kojima, ni par Konami, ni par personne, dit qu'en réalité, Metal Gear Ghost Babel, qui a été annoncé comme, par tout le monde comme n'étant pas canon, serait en réalité canon et serait le fameux programme d'entraînement que Jack a utilisé, que Raiden a utilisé, et dont ils font constamment référence dans Metal Gear Solid 2 pour dire qu'il n'a jamais fait de mission sur le terrain et qu'il a fait que des entraînements en VR jusqu'à maintenant. Donc voilà. Cela étant, je rappelle que Metal Gear Solid 2 est un jeu basé sur le mensonge où on passe son temps à mentir aux joueurs, donc peut-être que c'est un mensonge de plus, je ne sais pas. Moi, je suis devenu fou hein, quand j'ai fait ça. Donc,
Vous la sentez, la passion, là ? Vous la sentez ? Pour en revenir à Metal Gear Solid 2, non, n'empêche, c'était une très bonne aparté. Pour en revenir à Metal Gear Solid 2, en plus de ce nouveau protagoniste, Raiden, on découvre une nouvelle galerie de boss. Qui là deviennent beaucoup plus extravagants que dans le premier, avec notamment un vampire, Vamp, qui danse le flamenco pour éviter les balles et qui peut courir sur les murs. Donc là, on commence à être un petit peu moins réaliste. Et ces boss, ils sont aussi l'occasion pour l'équipe de proposer des morceaux plus calmes, plus mélodieux, un peu comme dans Metal Gear Solid 1, finalement. Moi, je pense notamment au personnage de Fortune, qui est aussi appelée Lady Luck, qui se sent atteinte d'une malédiction l'empêchant de mourir, parce qu'à chaque fois que quelqu'un lui tire dessus, les balles ne la touchent miraculeusement jamais. Sa tristesse face à son sort, je trouve qu'il est très très bien mis en musique par Norihiko Hibino, qui est vraiment l'homme de l'ombre de la saga Metal Gear, mais c'est un compositeur de très grand talent, et c'est surtout un saxophoniste de métier. Et retenez bien ce nom, Norihiko Hibino, parce qu'on va l'entendre souvent. Et c'est vraiment l'homme de l'ombre de la saga Metal Gear qui a créé des musiques mais extraordinaires. Ses compositions, d'ailleurs, elles sont toujours influencées par le jazz, parce que lui, il est saxophoniste de jazz. Et il rajoute énormément de couleurs dans ses morceaux et pour les BO de la série. Comme dans ce fameux thème de Fortune que je te propose qu'on écoute, où on va entendre ce fameux saxophone, si tu te souviens.
Allez, c'est parti.
Thank you. Frisson également sur ce morceau personnellement.
Ah, clairement, mais tu sens toute la mélancolie du personnage. En fait, le thème colle vraiment vraiment extrêmement bien au personnage, parce que rien qu'avec la musique, tu ressens un peu toute la mélancolie et toute la tristesse du personnage qui est décrite dans le jeu.
Ouais, carrément. Moi, je sais que ce thème, quand j'avais fait Metal Gear Solid à l'époque, ce thème là, ce saxophone m'avait tellement marqué. Fortune, c'est devenu mon personnage préféré de cet épisode là, juste parce que cette musique, je la trouvais mais fantastique.
Ouais.
Et en plus, Monsieur Ibino, il nous montre là qu'il est à l'aise avec le jazz, le saxophone, mais aussi avec les ambiances électroniques. Le garçon sait tout faire. Lui, il n'y a aucun problème. Donc, MGS2, ben, il a marqué toute une génération, parce que, en plus, son histoire, elle se conclut sur un méga cliffhanger et plusieurs explosions de quatrième mur. Et ça aura marqué tous les gens qui ont fait le jeu. Une histoire qui, pourtant, a reçu de sérieux remaniements au fil du développement, parce que, à la base, l'histoire devait nous plonger au Moyen-Orient, dans une base secrète dans le désert d'Irak et un peu plus tard d'Iran. Mais les tensions entre les États-Unis et l'Irak, bon, a fait que Kojima, bah, il a transposé l'histoire dans la baie de New York pour l'intro et au large des côtes sur une base marine pour le reste du jeu. Un mois avant la sortie du jeu, on a malheureusement l'attaque du 11 septembre sur les tours jumelles qui apparaît et donc qui force l'équipe à changer la fin du jeu, parce qu'on devait avoir la destruction de la Statue de la Liberté à la base avec le crash de l'arsenal Gear qui s'écrase sur Manhattan. Donc bon, ils changent tout ça. Et la manière d'écrire le nom Raiden fut changée également dans la version japonaise, parce qu'à la base, il était écrit en katakana, mais l'équipe trouvait que ça ressemblait un peu trop au katakana de Laden, ce qui rappelait Ben Laden. Donc finalement, Raiden fut écrit en kanji pour la version japonaise. Et d'ailleurs, Kojima, alors, tu m'as écrit dans la conduite, Kojima a failli démissionner. Moi, ça me fait peur. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais oui, effectivement. Effectivement, comme tu l'as dit, Kojima, il a plusieurs fois changé le scénario de son jeu. Alors, il a voulu mettre le jeu en Irak. C'était tendu. Il a voulu mettre le jeu en Corée du Nord aussi. Il y a pensé pendant un temps, mais c'était compliqué aussi. Donc, il a décidé que ça se passerait à New York. Mais il y a pas mal de choses qui ont changé pour éviter un petit peu de trop rapprocher le jeu du monde réel et de trop être à l'origine de théories du complot. Il y en a déjà assez comme ça. Donc, forcément, quand il passe devant la télé de la salle de pause chez Konami et qu'il voit le 11 septembre se dérouler exactement dans le monde réel, presque trait pour trait le scénario qu'il avait prévu pour son jeu qui sort dans un mois ou deux, c'est un énorme choc pour lui, en fait. Il s'en remet pas du tout au départ. Dès le lendemain, dès le 12 septembre, il convoque toute l'équipe du jeu, toute l'équipe de développement du jeu. Il fait venir les patrons de Konami et il annonce qu'il veut annuler le jeu et qu'il veut démissionner, en fait, parce que bah il considère que voilà, il peut pas sortir le jeu comme ça, c'est impossible, ça passera jamais, et donc lui il considère ça comme un énorme échec dans sa carrière, et à ce moment-là il veut démissionner. Sauf que bah les patrons de Konami qui sont présents dans la pièce, ils sont pas du tout d'accord avec lui. Ils disent, écoute,
tu parles.
Voilà, le jeu, il est à un mois de sa sortie, la campagne marketing, elle est lancée depuis longtemps, le jeu, il a été présenté dans tous les salons du monde, c'est la suite d'un des plus gros succès de la PlayStation, et surtout il y a déjà 2 millions de précommandes du jeu rien qu'aux États-Unis. Donc on peut pas se permettre de perdre tout cet argent, hors de question d'annuler le jeu maintenant. Donc ils lui disent, écoute, tu vas reprendre le jeu, d'autant que toute l'équipe de développement qui est là à ce moment-là, elle est à 100% derrière lui pour lui dire, écoute, s'il faut changer le jeu au dernier moment, c'est pas grave, on va le faire, quitte à le repousser, on va faire des heures sup, on va faire ce qu'il faut, mais on sortira le jeu clean comme il faut, quoi. Du coup, c'est ce qu'ils font, ils se remettent au travail et en moins de 2 mois, ils arrivent à retirer toutes les références un petit peu tendues du jeu. Ils retirent tout ce qui pourrait rapprocher le jeu des attentats du 11 septembre. Donc, tous les drapeaux américains disparaissent. Toutes les références à un attentat sur Manhattan disparaissent, même s'il y a quand même toujours le fait que le vaisseau s'écrase dans le jeu quand même sur New York, mais on a retiré tout ce qui était vraiment directement lié à un attentat à New York. Il devait y avoir une bombe qui explose à New York dans le jeu. Ça a été retiré. Enfin, bref. Voilà. Ils ont vraiment énormément retravailler le scénario et comment la manière dont les choses se déroulent pour faire en sorte qu'on ne puisse absolument pas relier le jeu aux attentats du 11 septembre. Le jeu sort finalement en novembre 2001 avec juste à peine un mois de retard, ce qui est incroyable hein, pour le coup, vu ce qui a été modifié dans le jeu. Et à ce moment-là, Kojima, il est terriblement stressé au moment où le jeu sort, que les gens relient quand même le jeu, parce que ça se passe toujours à Manhattan, ils n'ont pas eu le temps de tout modifier, quoi. Donc ça se passe toujours à Manhattan, il y a toujours un attentat, il y a toujours machin. Il se dit, je vais me faire défoncer, quoi. Enfin, les gens vont penser que je suis pro-terroriste ou quoi. Et en fait, il va sur Internet, il regarde les critiques et pas du tout. Les gens sont, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est absolument pas ce qui les a marqués. En fait, ils se rendent compte que la quasi-totalité des critiques autour du jeu se plaignent du fait qu'on joue pas Solid Snake et qu'à la place on joue Raiden. Donc en fait, à ce moment-là, il est soulagé, quoi.
Oh là là. Après, mine de rien, malgré tous ces changements, les joueurs, ils étaient vraiment impatients de connaître la suite de la franchise. Bon, déjà, tout le monde y a vu que du feu, que le scénario était changé parce que les gens ne le savaient pas. Donc, les scénarios l'ont pris comme ils l'ont pris. Et comme tu as dit, ils étaient plus concentrés sur le fait qu'on jouait Raiden et ça ne leur plaisait pas. Donc, tout le monde était vraiment content et impatient de connaître la suite. Parce qu'encore une fois, MGS2, il se finit sur un cliffhanger. Et la suite, bah, elle a surpris un peu tout le monde parce que Metal Gear Solid 3, qui sort en 2004, au lieu de continuer l'histoire de MGS2, eh ben, le jeu, en fait, c'est un préquel à toute la saga et il nous projette en pleine guerre froide dans les années 60, dans la peau de Big Boss, ennemi emblématique des deux premiers Metal Gear sur MSX. Et on est aux prises avec un groupuscule d'anciens combattants dans la jungle russe, qui, au passage, ressemble beaucoup à une jungle d'Amérique du Sud, même si c'est en russe, en Russie. Et pour comprendre la genèse de ce projet, il faut d'abord noter que Hideo Kojima, ben, lui, il voulait pas faire de suite après Metal Gear Solid 2. Bon, on comprend un peu pourquoi maintenant, mais on garde ça en tête parce que ça va être un peu un running gag tout le long de l'épisode. Parce que lorsque Konami demande MGS3, bah, Kojima, lui, bah, il refuse. Il ne veut pas s'en occuper parce qu'il aimerait développer d'autres types de jeux. Déjà, il n'avait pas participé au remake de MGS1 sur GameCube qui s'appelle Twin Snake. Donc vraiment, il veut faire autre chose, lui. Il fait des meetings avec les gens de l'équipe de développement pour voir qui serait intéressé pour réaliser MGS3 à sa place. Et à son étonnement, il n'y a personne qui semble motivé pour prendre le poste de réalisateur. Bah, donc, il décide de s'en occuper lui-même. Peut-être qu'on peut se dire aussi que parmi les gens motivés, il n'y en a aucun qui a trouvé grâce à ses yeux. C'est fort possible aussi.
C'est possible aussi, oui.
Donc là, une fois le projet lancé, Kojima, bah, lui, il décide de changer drastiquement l'ambiance du jeu. Du tout au tout, par rapport au précédent volet. Il a revu le film Predator de John McTiernan récemment. Et ben, il décide de placer l'action du jeu dans la jungle, avec un Snake loin de la civilisation et qui doit se débrouiller dans la jungle tout seul, ben, en mangeant des animaux ou en se créant des camouflages improvisés avec ce qu'il a autour de lui. Et du fait de placer le jeu dans une forêt luxuriante, ben, le moteur du jeu, ben, il doit changer et il doit évoluer grandement. Parce qu'à la base, le jeu il était pensé pour sortir sur PlayStation 3, mais finalement, la PS3, elle prenait beaucoup trop de temps à être développée, donc ils ont dû sortir le jeu sur PS2 et ils ont dû faire des concessions. Et ça a créé du challenge supplémentaire pour l'équipe en charge du moteur, parce que là, le fait de devoir loader un très grand nombre d'assets pour la faune et la flore, ça a fait que les développeurs, ils ont dû se résoudre à sortir le jeu en 30 FPS et non pas en 60. Le fait que le terrain, ce soit plus un terrain plat, mais avec des très vallonnés, eh ben, ça a fait qu'ils ont dû refaire de zéro tout leur système de collision et leur système d'animation. Donc, c'est un gros, gros boulot. Et lors de la sortie originale du jeu, la caméra, c'était la vue classique de MGS, vue du dessus, dû au fait que Kojima, il trouvait qu'avoir une caméra derrière un personnage, en fait, ça entraînait des nausées. Il aimait pas ça du tout. Mais il a finalement lâché l'affaire et le jeu Metal Gear Solid 3 est ressorti dans une mise à jour plus tard avec la caméra derrière le personnage.
Ouais, il avait expliqué qu'il voulait, en fait, il considérait que Metal Gear Solid c'était une trilogie, donc Metal Gear Solid 1, 2 et 3. Et il voulait du coup que les trois jeux aient un gameplay très proche les uns des autres pour conserver une sorte de continuité. C'est pour ça qu'il voulait vraiment la caméra du dessus, ajouter au fait qu'il aimait effectivement pas les caméras libres dans les jeux en 3D. Et qu'il aimait bien un point de vue fixe, quoi.
Ce qui fait du sens, mine de rien, c'est pas déconnant hein, comme idée.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi il a décidé de placer l'histoire dans les années 60 exactement?
Alors, oui, effectivement, il y a plein de raisons pour lesquelles le jeu se passe dans les années 60, mais une des principales raisons, c'est qu'au départ, Kojima, il voulait que le jeu se passe précisément dans la journée du 24 août 1963. Alors, pourquoi cette date et pas une autre? Bah, c'est pas très compliqué, c'est parce que c'est sa date de naissance, tout simplement. Il s'est dit, ce serait cool s'il y avait un jeu qui se passait pendant ma date de naissance. Alors ça, c'était au tout début, c'était sa première idée. Quand ils ont commencé à développer un scénario, ils ont été obligés de décaler ça à 1964 parce que ils voulaient inclure l'assassinat de Kennedy dans l'intrigue du jeu. Donc forcément, ça pouvait pas être anachronique. Le jeu lui-même est basé sur les anachronismes. Enfin, parle beaucoup de ce genre de choses, vu que c'est une préquelle et qui s'amuse un peu avec ce qu'on appelle les paradoxes temporels. Si tu tues, bah, si Snake meurt, t'as un paradoxe temporel. Et si tu tues des personnages censés revenir dans les jeux suivants, le jeu s'arrête pour te dire non, là, t'as créé un paradoxe temporel, tu peux pas faire ça.
Donc, c'est vrai,
ça, c'est intéressant. Mais du coup, voilà, le jeu, du coup, se passe en 1964, mais ça n'empêche pas Kojima d'avoir quand même plein d'idées pour un jeu d'espionnage qui se passerait dans les années 60. On ressent, ne serait-ce que dans la musique qu'on va écouter après, j'imagine, une certaine influence à la James Bond,
oui,
avec les films d'espionnage de l'époque, mais surtout, lui, quand il pense années 60 et guerre froide, lui, il pense conquête spatiale. Il se dit, je vais faire un jeu qui parle beaucoup de la conquête spatiale. Et il imagine plein de trucs avec des fusées, des trucs comme ça. Enfin, voilà, il a plein de super idées. Mais voilà, encore une fois, plus le développement du scénario avance, plus il rajoute des idées dans l'histoire, et moins ça laisse de place à quelque chose comme des fusées et une intrigue basée sur la conquête spatiale. Donc, il est obligé de jeter un petit peu la plupart des idées qu'il avait sur ça. Il en a gardé une quand même qui a survécu au jeu final et qui se retrouve dans un combat de boss, le personnage de The Fury, qui, si tu te rappelles, se représente avec une espèce de combinaison de cosmonautes. Il a un casque à visière, etc. Et en fait, l'histoire de The Fury, c'est que dans la diégèse du jeu, c'est le tout premier être humain à faire un voyage dans l'espace, donc avant Yuri Gagarin, officiellement. Sauf que les Soviets en ont pas parlé parce que son voyage à lui s'est mal passé. Quand la capsule est réentrée dans l'atmosphère, elle a pris feu et il a brûlé à ce moment-là. Et en arrivant sur Terre, il est pas mort, il a été sauvé, sauf qu'il est revenu traumatisé de son voyage dans l'espace, et c'est comme ça qu'il est devenu pyromane. Et donc, ça en fait le boss pyromane que tu affrontes dans Metal Gear Solid 3. Mais c'est le seul détail qui a survécu à toute l'intrigue autour de la conquête spatiale que Jima voulait mettre dans le jeu.
Effectivement, oui, oui. Très, très bonne anecdote. Concernant la musique de Metal Gear Solid 3, ce qui est rigolo, c'est que Harry Gregson-Williams, à la fin de MGS2, il avait dit à Kojima qu'il voulait un peu sortir du style ambiance techno pour lequel il était connu et qu'il voulait essayer d'autres choses, et que si MGS3 se passait dans la même ambiance, ça ne l'intéressait pas. Il a ensuite dit, pour que je revienne, il faudrait que le jeu il se passe, je ne sais pas moi, dans une jungle ou un truc comme ça. Et là, Kojima, il lui dit, alors, je vais mettre le jeu dans une jungle exprès pour te garder sur le projet. Mais en fait, le thème de la jungle, il était déjà dans les tuyaux, donc ça tombait parfaitement à point.
Il est très, très fort. Hein.
Très fort, très, très fort. Mais honnêtement, sur MGS3, c'est pas le nom de Harry Gregson-Williams qu'il faut retenir. Vraiment pas. C'est plutôt le nom qu'on a entendu un peu plus haut, Norihiko Ibino, parce que c'est lui, il va briller de mille feux sur MGS3. Parce que, comme on l'a dit, au-delà de l'ambiance Predator et jungle, Kojima il décide d'utiliser le contexte des années 60 pour faire référence à une autre série de films qu'il adore, la série des James Bond. De ce fait, il demande un thème principal qui fait référence aux films de James Bond, et notamment aux compositions de John Barry, qui a écrit les premiers thèmes de James Bond, thèmes extraordinaires. Et ça, Harry Gregson-Williams, bah, il peut pas le faire, tout simplement, parce que c'est jazz, c'est compliqué, il peut pas. Mais Monsieur Ibino, lui, c'est un saxophoniste de jazz de grand talent, diplômé de Berkeley de surcroît, donc lui, bah, pour lui, c'est que du bonheur, donc lui, il va s'amuser. Et il nous compose un thème d'ouverture dantesque, vraiment, avec des arrangements et une orchestration complètement dans le thème, mais jamais pastiche. C'est vraiment bien fait ce qu'il a écrit. Et on va s'écouter ce thème qui s'appelle Snake Eater, comme le jeu, et qui est chanté par Cynthia Arell. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my
day you feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day.
L'accord final de James Bond, il était obligé de le mettre, mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Mais ça marche tellement bien en plus, mais ouais.
Non mais vraiment, et en plus si, alors, si cette chanson vous a fait croire que MGS3 sera un jeu un peu plus fun et décomplexé, non non, la réalité c'est que c'est peut-être l'épisode le plus triste de la série, très honnêtement. Parce que perpétuant la traduction des personnages hauts en couleur au destin tragique, MGS3 il nous introduit une galerie de protagonistes et d'antagonistes vraiment bonnes, et il nous fait suivre pour la première fois une romance pour Snake avec le personnage d'Eva. Hideo Kojima, concernant les voix, il voulait changer un peu et il voulait que Kurt Russell fasse la voix de Naked Snake parce que c'est pas le même Snake qu'avant. Donc, il voulait rendre hommage à l'inspiration du personnage Snake Plissken. Donc, il a demandé à Kurt Russell et ce dernier a refusé tout simplement parce que lui, il a dit que John Carpenter, il n'était pas impliqué. Donc, il s'est dit, je vois pas l'intérêt de vouloir capitaliser sur un personnage. Moi, je préfère créer quelque chose de nouveau.
Ouais.
Ce qui est tout à son honneur, très honnêtement, et c'est très surprenant pour une star de
l'époque. Bah ouais, mais ça aurait été marrant qu'une fois de plus, ce soit John Carpenter qui sauve les miches de Kojima et qui arrive en disant, non, mais Kojima, c'est un mec sympa. Et
là, du coup, un mec sympa. Ça aurait été magnifique, mais non, malheureusement. Donc, c'est David Hayter qui reprend le rôle de Snake. Et de toute façon, là, on va parler un peu des doublages et de toutes les stars de cinéma, et notamment d'une personne très mystérieuse. Éclaire-nous, Nico.
Exactement. On a dit que Metal Gear, c'était des jeux basés sur le mensonge. Ce sont aussi des jeux basés sur le mystère, figure-toi. Et il existe un mystère dans Metal Gear Solid 3 qui n'a toujours pas été résolu à ce jour. C'est celui de Suzeta Miniette. Il faut expliquer un petit peu qui est cette personne. Donc on sait depuis Metal Gear Solid effectivement que Kojima met un point d'honneur à avoir des dialogues entièrement doublés, donc il va chercher des acteurs plus ou moins connus. À partir de Metal Gear Solid 2 et 3, les acteurs seront même de plus en plus connus. On sait que du coup que Kurt Russell n'a pas été retenu pour jouer la voix de Naked Snake. Par contre, on sait que Major Zero, par exemple, est doublé par Jim Piddock. Jim Piddock, c'est quelqu'un qu'on peut voir dans Independence Day ou dans L'Arme Fatale 2, par exemple, ou encore que le personnage de The Boss est joué par Laurie Allan, qui est la voix de Diane Simmons dans Family Guy, entre autres choses. Donc voilà, il y a des personnalités de plus en plus connues qui viennent prêter leur voix au personnage de Metal Gear. Mais il y a une actrice autour de laquelle flotte toujours un mystère que personne n'a résolu. Dans les crédits du jeu, pour le personnage d'Eva, justement, on nous dit qu'elle est doublée par une femme du nom de Suzeta Miniette. Sauf que personne ne sait qui est Suzeta Miniette. Elle est créditée dans le rôle d'Eva dans tous les jeux où elle apparaît, ou presque, ce qui fait deux jeux au total avec Peace Walker. Mais c'est absolument tout. On l'a jamais vue ni entendue nulle part avant ou après Metal Gear Solid. Elle n'a pas de biographie ni de photo nulle part sur Internet. Elle n'est apparue à aucun des panels où sont apparus les autres acteurs qui prêtent leur voix au personnage du jeu. Donc, la question s'est très vite posée de qui est Suzeta Miniette. On sait que les fans de Metal Gear, maintenant, ils ont l'habitude de creuser et de soulever chaque pierre pour savoir qui est qui, parce qu'ils savent qu'on se fout constamment de leur gueule. Donc, ils veulent savoir. Quand il y a un truc qu'ils comprennent pas, ils sont tout de suite suspicieux, quoi. Donc, ils posent tout de suite la question de savoir qui est Suzeta Miniette, parce que à ce stade, tout porte à croire qu'elle n'existe pas. En interview, David Hayter a confirmé que Suzetta Minette, c'est effectivement un pseudonyme, mais il est resté très vague sur la véritable identité de la personne, ce qui a évidemment encore plus alimenté les théories du complot, sur Internet notamment. Et du coup, certaines personnes pensaient au départ qu'il s'agissait de Debbie Mae West, qui prête sa voix à Meryl dans Metal Gear Solid 1 et 4, pour le coup, parce que leurs voix sont très proches en réalité. Elles ont une voix très proche, mais Debbie Mae West a deux fois de suite nié que c'était elle qui avait fait cette voix, parce que bah, de toute manière, elle est créditée sous son vrai nom pour Meryl, elle aurait été aussi créditée sur son vrai nom pour Eva, il n'y avait pas de raison, donc c'est pas elle, elle a expliqué. Du coup, les fans, ils sont allés encore plus loin, ils sont allés interroger directement la directrice de casting des versions anglaises des jeux, qui s'appelle Chris Zimmerman. Ah ouais, non, mais ils ont peur de rien, ils reculent devant rien. Donc ils sont allés contacter Chris Zimmerman pour lui demander qui était cette fameuse Suzetta Minette. Elle a expliqué que bien sûr, elle sait qui est Suzetta Minette en vrai, puisqu'elle a bossé avec elle, mais qu'elle ne va pas le dire parce que c'était la décision de l'actrice de ne pas donner son nom et de garder son identité secrète. Par contre, elle dit qu'elle trouve extrêmement amusant toutes les théories qu'elle a pu lire de la part des fans sur la potentielle véritable identité de Suzetta Minette. Donc si jamais vous nous écoutez et que vous pensez avoir une théorie solide sur l'identité de Suzetta Minette, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. On sait jamais, peut-être que vous avez percé le mystère et qu'on va faire histoire aujourd'hui.
Ah oui, s'il vous plaît. Ça permettrait de faire décoller le podcast, donc allez-y là. Donc voilà, parmi tous ces personnages hors en couleur, on a Raiden qui revient également, mais il revient juste pour se faire ridiculiser. C'est une histoire assez extraordinaire parce que malgré les grosses ventes de MGS2, on l'avait dit, beaucoup de fans étaient déçus du personnage de Raiden, et surtout, il détestait le personnage de Raiden. Et en réponse à ça, Kojima, il a créé le personnage de Ivan Raidenovich Rykov dans MGS3, qui a le même visage que Raiden, mais qui est un personnage très efféminé, et surtout, c'est un personnage soumis, ridicule, qui se fait ridiculiser dans le jeu, qui finit à poil dans un casier, enfin, c'est n'importe quoi. Et Kojima, il a expliqué que ce personnage, il fut créé pour que les fans en colère, ils puissent expurger leur frustration concernant Raiden sur lui. Parce qu'il a dit, moi j'ai mis ma carrière en danger avec Raiden, parce que je voulais surprendre les gens en cassant tout ce qu'ils auraient pu attendre. Je voulais que les joueurs ils soient amusés par cette idée, mais au lieu de ça, ils étaient tous en colère, ils se sont tous mis à le bâcher. Ça m'a rendu un peu triste. Alors il a créé ce personnage pour que les gens puissent évacuer la pression. Mais outre les personnages, le jeu, il met en scène des boss qui, moi, je trouve, ça se rapproche de plus en plus des personnages de comics à ce moment-là, au fil des épisodes, parce que là, on a carrément, on a un boss en feu, on a un boss qui peut invoquer des abeilles depuis son corps, carrément. Donc là, MGS3, il utilise son statut de préquel aussi pour explorer les origines de tous les personnages de la série dont on parle depuis le début. Mais concernant les boss, ce qui est cool, c'est que là, les combats de boss sont beaucoup plus travaillés dans cet épisode. Parce que chacun possède un gimmick de gameplay, on pourrait dire, bien spécifique. Il y a même des affrontements de boss qui peuvent être évités, tout simplement, suivant certaines conditions, comme le fameux boss The End, qui peut être tué au sniper pendant une séquence en début de partie, ou il peut mourir de vieillesse si on quitte le jeu au début du combat, on attend une semaine, on relance le jeu et le boss est mort de vieillesse, ce qui est assez fou quand même.
C'est génial comme idée, ouais, c'est clair.
C'est trop bon. Et pour mettre les affrontements de boss en musique, c'est vers Monsieur Hibino que se tourne Kojima encore une fois, parce que non content de nous montrer qu'il peut composer des intros extraordinaires et décomplexées, il peut composer des ambiances électro sur MGS2, Monsieur Hibino, il sait aussi faire de la musique d'action, parce qu'il sait tout faire, ce garçon. Donc on va s'écouter le thème écrit pour le fameux combat contre le boss de Fear. Je sais pas si tu t'en souviens, enfin j'imagine que oui, hein, quand même.
Oui.
Donc on s'écoute cette musique qui est vraiment cool.